Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ce que je vous propose, c'est de, sans plus attendre, passer à la chronique de Mathieu. Aujourd'hui, on va vous raconter sans doute l'un des pires bugs logiciels que l'histoire a pu connaître. Alors qu'il est embarqué dans un dispositif médical, le programme en question, développé en assembleur, attention, c'est rare, a provoqué 6 accidents. Et là, c'est beaucoup moins drôle, dont 5 ont été fatales. C'est devenu un des cas d'étude pour la sécurité des logiciels de ce qu'il ne faut pas faire. Et c'est très intéressant pour les implications qu'il y a eu ensuite. Mathieu, je te laisse la parole.
Et juste avant, je lis le chat qui dit « La rentrée est difficile MDR, il est prof en prise de parole, je vous vois. » On se prend des scuds comme ça qui font un peu mal.
Oui, donc je disais, non, mais c'est devenu un des cas d'étude pour
tout à fait
la sécurité des logiciels. Notamment, il y a des implications sur la manière dont on gère les potentiels bugs et les failles dans le logiciel.
Et je vais vous mettre à contribution parce que peut-être que vous avez des expériences à apporter. Une fois n'est pas coutume, je vais vous raconter l'histoire d'une machine. Et elle s'appelle Terrac 25. On va peut-être la voir affichée à l'écran. C'est une machine de radiothérapie qui a été conçue par l'Atomic Energy of Canada Limited. Pour le reste de la chronique, on va dire l'AECL. Elle a été conçue en 1982. Donc c'est pas tout récent l'histoire que je vais vous raconter. Et il faut savoir que dans ces années-là, 70, 80, 90, c'est difficile de traiter le cancer. Encore aujourd'hui, mais il se trouve que à ce moment-là, on fait plein de découvertes. Il y a beaucoup de recherches sur ce sujet-là, et notamment sur la radiothérapie. La radiothérapie, ça permet de détruire des cellules cancéreuses et éviter qu'elles se multiplient, qu'elles prolifèrent, grâce au rayonnement. Donc depuis qu'on a découvert les rayons X en 1895. Et l'avantage de ce traitement, c'est qu'il peut être très précis. Par exemple, s'il y a juste une zone qui est malade, on va pouvoir précisément aller tuer ces cellules, contrairement par exemple à la chimiothérapie où c'est pas du tout le même.
J'ai demandé si c'était la même chose.
Non, justement, la chimiothérapie ne cible très peu. Et c'est justement un problème, c'est qu'elle va tuer les cellules pas saines, malades, et les cellules saines. C'est pour ça que les gens en chimiothérapie sont crevés.
Parce que tu prends des médicaments, en gros, du coup.
On détruit tes cellules. Alors, pas toutes tes cellules, mais globalement, c'est beaucoup moins précis. Alors que la radiothérapie, vraiment, pour le coup, c'est très précis. Revenons à Terrac 25. C'est une nouvelle machine, et elle a cette particularité qu'elle répond à deux besoins. En fait, il y a deux types de radiothérapie. Il y a la radiothérapie par rayon X, et la radiothérapie par électron. Okay. Je ne vais pas aller dans un détail fou parce que je ne suis pas médecin, mais il y en a même sans doute d'autres. Mais là, il y a ces deux types de radiothérapie. Et normalement, il faut deux machines. Et d'ailleurs, ils avaient fait la Terrac 6 et la Terrac 20. Et là, la Terrac 25, elle regroupe les deux technologies dans une même machine. Donc ce qui fait que, déjà, c'est une prouesse technologique. C'est moins cher, c'est avantageux pour les hôpitaux. Globalement, c'est un succès, ils vont la commander. Enfin,
J'achète
parce que ça permet d'avoir une seule machine pour deux usages et c'est moins cher. Et d'ailleurs, la Terrac 6 et la Terrac 20 sera à son importance pour plus tard, a été développée en collaboration avec une entreprise française, c'est CGR, Compagnie Générale de Radiologie, c'est une filiale de Thomson à l'époque, et AECL décide de rompre ce partenariat pour aller tout seul construire cette nouvelle machine, la Terrac 25. Et elle a une particularité, c'est qu'elle est entièrement contrôlée par son logiciel. Et on est en 1982, je crois que je vous ai dit. Donc pour l'époque, c'est une petite révolution. C'est contrôlé par cet ordinateur.
Okay.
Donc au lieu d'avoir plein de boutons et de contrôle manuel, etc.
Et contrôle hardware, matériel. Et l'interface et tout, en fait, les sécurités et tout, c'est contrôlé par un ordinateur. Il y a la machine, il y a l'ordinateur de l'autre côté, et tout se passe via l'ordinateur. C'est le cerveau de la machine, comme on connaît beaucoup aujourd'hui. Mais à l'époque, c'est assez nouveau. Maintenant, je vais vous raconter une histoire qui se déroule le 21 mars 1986. Ray Cox, un patient, se rend au East Texas Cancer Center pour sa séance de radiothérapie du jour. Il est atteint d'une tumeur dans le dos. Et voilà, il va faire sa séance de radiothérapie. Souvent, on y va tous les jours ou toutes les semaines en radiothérapie. La machine TERAC 25, ça fait 6 mois qu'elle est installée à peu près. Elle a vu 500 patients, enfin, vraiment aucun problème. Et Ray Cox, il y va tranquillement parce qu'en fait, la radiothérapie, c'est comme une radio, ça fait pas mal.
Ouais.
Ça peut avoir des effets secondaires à moyen long terme, mais c'est vraiment comme si on passait une radio. Donc, tu vas tranquillement à ta séance, quoi. Et Ray Cox, il vient pour une séance de radiothérapie par électron. Très précisément, 180 rads. Rad, c'est l'unité c'est l'unité pour la dose de rayonnement absorbée, je l'ai traduit, et c'est principalement utilisé aux États-Unis. En France, on dit gray pour okay. GY. Donc l'opérateur, il est dans sa cabine, donc ils sont dans deux pièces différentes. Eux, ils sélectionnent sur son interface, qui vous allez voir est absolument splendide.
Ah oui.
Ils sélectionnent, voilà, nickel. Vous voyez le beam type, ils sélectionnent X dans un premier temps. Et après, il entre la dose. Mais est-ce que vous avez suivi ?
C'est-à-dire que, alors déjà, je...
Alors, je vous ai pas dit. Il sélectionne X pour rayon X.
D'accord.
Pour X-ray.
OK, il sélectionne X. Après, il va rentrer...
Ouais, il va rentrer l'énergie. Alors,
pour une dose.
Ouais, c'est ça.
OK.
Honnêtement, je pourrais pas le faire. Je suis pas assez calé, mais lui sait très bien le faire.
Okay.
Et sauf que là, tout de suite, il s'aperçoit de son erreur. Il fait, c'est vrai que Ray Cox, il est venu pour une séance par électron, radiothérapie par électron.
Du coup, il met E là.
Donc ça, il met E dans un second temps. Et du coup, il s'en aperçoit tout de suite. Donc il y a aucune incidence.
Ça fait longtemps qu'il utilise ce logiciel. Genre, il est, il va vite.
Ouais, il va vite. Il est plutôt aguerri. Ça doit être il doit y avoir quelques opérateurs, mais il connaît bien la machine.
Okay.
Ça fait 6 mois qu'il est là et vraiment, il la connaît bien. Donc il a fait son petite erreur, mais pas du tout grave. Donc il appuie sur E pour remettre radiothérapie par électron. Et puis il appuie sur B pour BIM, pour ce qui veut dire faisceau, donc pour lancer le traitement. Après quelques secondes, la machine s'arrête et elle affiche malfunction 54.
Okay.
Qu'il faut. Et c'est une erreur inconnue du manuel de l'opérateur, en fait. Alors ça, c'est un... Ah si, ça, vous allez voir, c'est un GIF. Vous allez voir qu'à la fin, ça annonce la malfunction. C'est juste que ça prend un peu de temps.
Okay.
Il voit cette erreur qu'il ne connaît pas, et puis il voit que le traitement est en pause. Ça, pour le coup, c'est très, très courant.
Ouais.
C'est un signal faible pour lui, juste. Il se dit, bon, je vais relancer. Il appuie sur P pour unpause le programme, et pour relancer le traitement.
Alors, pour rappel, pour ceux qui trouvent ça moche, tout a été développé en assembleur.
Alors oui.
Donc, pour une interface en assembleur...
C'est pas mal,
c'est
en vrai.
C'est quand même pas si...
Honnêtement, donc oui, c'est complètement de l'assembleur. C'est une machine qui s'appelle le PDP 11, il me semble, oui, c'est ça, le PDP 11. Et voilà, ça se contrôle en assembleur, c'est un microprocesseur de l'époque. Et honnêtement... Pour l'époque, lui, elle est pas mal. Hein. Franchement,
ouais.
L'interface utilisateur est pas mal. Là, il y a un premier problème qui se passe, c'est que l'opérateur et le patient, ils sont dans deux salles différentes.
Ah.
Le patient qui est dans la salle où il est soigné avec la machine, et l'opérateur, il est dans une salle à côté, parce qu'il y a des radiations, forcément. Et normalement, il peut voir et entendre. Il y a un système d'audio-vidéo. Sauf que ce jour-là, l'écran ne marche pas. On sait pas trop pourquoi. Et le haut-parleur est cassé depuis des mois. C'est le genre de truc, tu oublies de le réparer, et puis voilà. Et donc, il sait pas trop ce qui se passe dans la salle du patient. Et justement, ce qu'il sait pas, c'est que Ray Cox, lors de le premier faisceau qui est envoyé par la machine, il a ressenti comme un immense choc électrique dans le dos.
Ok.
Alors qu'il est sur le ventre, parce que sa tumeur est dans le dos.
Ok.
Un immense choc électrique dans le dos. Donc il se dit, il y a un problème. Il parvient à s'extirper de la machine. Et pile à ce moment-là, c'est le moment où l'opérateur lance le deuxième faisceau. Juste, il se dit, ça a bugué.
Okay.
Il lance le deuxième faisceau. Donc là, il a le réflexe de courir et il se met à tambouriner à la porte, à crier.
Mais le deuxième faisceau, du coup, il est dans le vide, quoi.
Oui, c'est ça.
Sur le patient. Okay.
Oui, exactement. Il arrive à esquiver
le
deuxième faisceau.
Okay.
Mais ce qui est très étrange, c'est que sur l'interface utilisateur, après le premier faisceau, il y a marqué que la machine a envoyé 6 unités. Sur 202.
D'accord.
Donc non, c'était normal, il fallait qu'il continue. Enfin,
c'est ça, ouais. C'est comme s'il venait de commencer, quoi.
Exactement. Donc tout ça est un peu étrange. Il y a un médecin qui l'ausculte, et il regarde, il fait, non, Il n'y a rien de très grave, il y a des petites inflammations, mais aucun souci. Et il rentre chez lui. Sauf qu'il rentre chez lui et il a de plus en plus de grosses douleurs dans le dos, dans le cou, sur les épaules. Et puis le temps passe, il est pris de nausées, de vomissements. Et puis finalement, il a même paralysé localement de certains membres. Je vous la fais courte parce que c'est pas très drôle, mais 5 mois après cet épisode, Ray Cox meurt.
Ok.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? L'AECL...
Mais attends, ouais. Du coup, entre-temps, ils ont continué à traiter d'autres patients avec la même machine ?
Oui.
Et ça s'est bien passé ?
Oui, la plupart du temps, ça se passe bien.
D'accord.
Il y aura d'autres soucis. En fait, cette machine, elle est dans plusieurs hôpitaux aux États-Unis et au Canada. Et je vous expliquerai, mais il y a eu plusieurs cas. En fait, il y a eu plusieurs cas. Là, je vous ai raconté le cas de Ray Cox, mais il y a eu d'autres patients qui ont été atteints, même avant Ray Cox. Mais c'est juste que le temps que ça remonte au fabricant, parfois on se dit que c'est autre chose. Ouais. La remontée d'informations est compliquée.
Parce que là, pour l'instant, donc lui, il meurt. Évidemment, ça doit tirer les sonnettes d'alarme. Et donc, ils doivent essayer de remonter. Qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
C'est ça.
Il passe en mode enquête.
Mais c'est ça. À ce moment-là, il passe en mode enquête pour ce cas-là, mais en fait, il y a des cas précédents où, juste, on a conclu qu'elle était morte du cancer. C'est con, mais c'est des gens malades, tu vois.
Ouais.
Il y en a une autre où, en fait, elle a eu un accident de voiture avant que ça soit un peu résolu. Donc, j'ai pas tous les détails de toutes les histoires, mais en fait, ça a pris plusieurs mois à que ça remonte à l'AECL.
Mais en fait.
Donc, rien que ça, c'est déjà une erreur, en fait.
Mais en fait, c'est pas le cas.
Mais en fait, c'est pas le cas. Enfin, c'est pas le cas de quoi?
Ils sont pas morts d'un cancer.
Ah oui, mais en fait, c'est pas le cas. Si je raconte cette histoire, c'est qu'à la fin, il y a non, complètement. Tu fais bien de le préciser, c'est pas le cas. Du coup, il y a des ingénieurs de la compagnie qui viennent et ils font tout pour essayer d'identifier le problème et de le reproduire. Donc, tu refais les tests et tout. Ils voient rien du tout. Ils voient rien du tout. Pour eux, l'erreur 54, là, c'est limite une erreur random. Enfin, ils savent pas quoi en faire. Et l'entreprise dira même que la probabilité d'une surexposition au rayon est de 0.
Ah ouais?
Ils sont sûrs d'eux, quoi. Vraiment, il n'y a pas de souci. Sauf qu'il y a un physicien de l'hôpital, il s'appelle Fritz Hager, va se pencher un peu, donc l'hôpital du Texas, là où on était, va se pencher sur cette question. Donc il va demander à l'opérateur qui était présent ce jour-là, allez, on refait la scène, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que t'as fait, qu'est-ce que t'as rentré et tout machin, sans patient, évidemment.
Ouais.
Pareil, il ne retrouve pas. Et malheureusement, il va y avoir un second accident, moins d'un mois plus tard, dans le même hôpital, avec la même machine.
Sur une autre personne?
Sur une autre personne, et en plus, là, c'est encore plus tragique, parce qu'elle avait des soucis à la tête.
Ah oui.
Donc, en fait, le rayon a impacté direct sa tête, et elle est morte, elle a agonisé, elle est morte au bout de 3 semaines, en fait.
Ah ouais. Okay.
Vraiment, là, c'était très rapide. Elle a dit, j'ai ressenti comme si j'étais dans un four, quoi. Donc, vraiment, tu te dis, il y a quand même un problème.
Horrible. C'est une mort horrible.
T'as vraiment... Je me focus sur sur la technique et tout parce que d'un point de vue médical, c'est absolument atroce, quoi. Et je me demande même pourquoi ils ont pas réagi plus tôt. En fait, je sais pas à quel point ils ont arrêté la machine et tout.
Ouais.
Mais bon, là, il y a un mois plus tard, elle a fonctionné, quoi. Donc, et je pense qu'en fait, juste, ils disaient que c'était pas la machine. Il y avait vraiment ce truc où tu c'est pas possible, tout fonctionne bien. Bon, du coup, Fritz Hager, le physicien, il reprend. Et là, l'opérateur, il reprend ses essais de reproduire le bug. Et là, l'opérateur, il se souvient très bien de ce qu'il a fait. Et ils vont enfin comprendre.
Salut! Si vous appréciez Underscore, vous pouvez nous aider de ouf en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, en mettant une idée d'invité que vous aimeriez qu'on reçoive. Ça permet de faire remonter Underscore. Voilà. Telle une fusée.
Et du coup, je vais vous expliquer. Mais avant de vous expliquer, est-ce que vous avez des petites idées?
C'est pas parce qu'il a modifié de X à E. Et du coup, au moment où il fait cette modification-là, quelque part, il y a un check qui n'est pas fait et il ne met pas la bonne dose.
Eh, ingénieur pour rien, celle-là. Complètement. C'est ça. Alors, je vais rentrer un peu dans le détail pour vous comprendre en fait comment a été codé le TERRAC 25. Parce que c'est une erreur logicielle de code due au développement. Et ce qui en a fait un cas d'étude. En fait, dans le code, il y a une variable qui s'appelle T-phase, qui contrôle l'avancée des sous-programmes de la machine. Donc c'est lui qui dit à quelle étape on en est. Donc voilà, ça c'est un schéma déjà qui est un peu complexe pour une machine qui est normalement assez simple. Hein. Bon, c'est un peu complexe. Et ce qui est cool, c'est que du coup il y a eu des rapports qui ont été faits et donc on a accès à comment fonctionnait la machine. Et en fait, quand l'opérateur a appuyé sur X, cette variable, elle est passée en mode c'est bon, tu peux setup la machine. Et donc ça veut dire que on lui a demandé la quantité de radiation. Ça c'est normal. Et que dans le même temps, en fait, il y a un aimant qui s'est mis en marche pour changer de mode. En fait, c'est ce qui permet de changer le faisceau, qu'il soit électron radiation, oui. Voilà, le mode électron, le mode rayon X. Et on va le voir, alors si on regarde le schéma, celui juste d'après, en fait, sur le mode électron, le faisceau, qui est beaucoup plus faible, va directement sur le patient. Mm. Et sur le mode rayon X, en fait, il y a ce qu'ils appellent une cible. Alors, honnêtement, j'ai pas bien compris pourquoi ils appellent une cible, mais globalement, il faut que ça passe par un filtre, parce qu'en fait, le rayon est beaucoup plus fort. Et donc, il y a l'aimant qui change le faisceau, mais la cible ne change pas. Là, je vous ai embrouillé. Oui. Donc, du coup, le faisceau se met en mode X. Normal, on lui a demandé ça. Et après, il change. Sauf que, je vais la refaire.
Ouais.
Ok.
Attends, mais je vais te dire où j'en suis resté.
Ok.
Donc, il y a le gars sur son logiciel, il s'est trompé.
Ouais.
C'est ça que j'ai retenu. Et en fait, il a mis X, mais en fait, il fait un rollback, il met E à la place.
C'est ça. Donc, en fait, quand il appuie sur.
Sauf que la machine n'a pas switché de mode, quoi.
Sauf que là, en fait, quand tu as appuyé sur X, ça envoie directement l'instruction de prépare ton setup pour le mode rayon X. L'opérateur change. Il appuie sur E parce qu'il s'est trompé. Le problème, c'est que, en fait, la machine s'était déjà enclenchée. Et donc, l'aimant devait bouger. Et l'aimant met 8 secondes à bouger.
Ah.
Et le gros problème, c'est que pendant ces 8 secondes, tu peux taper n'importe quoi sur ton ordinateur, le système ne prend pas en compte. Et donc, la machine n'est jamais repassée en électron mode. En mode électron.
Parce que l'opérateur allait trop vite.
Et en fait, parce que l'opérateur était trop rapide et que lui, il connaît la machine par cœur, il a fait hop, flèche du haut, modifier E. Et 8 secondes, c'est une éternité pour une machine que tu connais bien. Résultat, Ray Cox, notre patient, il a reçu des rayons X avec un dosage très important alors que la cible n'était pas en place. Donc, il a reçu des rayons X dans un mode électron, si vous voulez.
Ouais, en fait,
ça a mélangé la machine et le faisceau d'électrons nécessaire pour produire les rayons X. Il est 100 fois supérieur. En fait, il y a un facteur 100 entre les deux modes, si vous voulez.
Okay.
Je ne vais pas aller partir dans de la physique nucléaire, mais il y a un facteur 100. Donc ça, c'est ce qu'a subi Ray Cox. Comment c'est possible? Et en fait, derrière cette erreur de conception, il y a une erreur logicielle. C'est le problème de concurrence. Le Weiss condition, en anglais. Est-ce que l'un de vous veut l'expliquer ou j'y vais parce que c'est un truc très courant en dev.
Non, vas-y.
Alors moi, je vais vous faire très applicatif sur ça. En gros, la variable T-phase, elle pouvait être écrite par deux processus séparés et il n'y avait aucune logique de priorité. Pardon, il n'y avait aucune logique de priorité. C'était le premier servi. Et en fait, là, il y a un processus qui, le changement de mode physiquement de la machine qui a pris cette variable alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui a voulu réécrire dedans. Et en fait, c'est le processus 1 qui a gagné.
Donc, imaginez-vous que c'est comme s'il y avait deux programmes en même temps
qui
se battent pour accéder à une certaine zone de la mémoire ou une certaine action. Et c'est un problème de programmation classique.
C'est ça, et c'est un problème de concurrence, on pourrait dire, en français. Et bon, bah, c'est très connu, mais dans les années 80...
À l'époque, c'était peut-être pas...
C'était un peu moins connu, mais on va voir qu'il y a quand même eu des soucis dans les phases
dans le process.
De développement. Et donc, du coup... Alors ouais, ça, c'est quand même...
En fait, il y a un truc qui m'interroge.
Ouais.
C'est que, ok, t'as un bug logiciel, mais t'es en train de mettre une machine qui coûte probablement des centaines de milliers d'euros, qui va jouer avec la vie des gens, en fait.
Ouais.
Donc, comment c'est possible qu'un simple problème de concurrence, un petit bug classique que n'importe qui pourrait faire, comment c'est possible qu'il soit à l'origine d'un changement de la machine, d'un changement hardware qui soit létal? C'est-à-dire que...
Ouais.
Ça pose plein de questions, je trouve.
Ce qui est fou, c'est qu'il n'y ait pas de garde-fou, quoi.
Exactement.
Et on va le filtrer.
Et ben, je vous propose de tous les recenser, ces garde-fous. En fait, la première chose, c'est que je l'ai dit au début, ils ont enlevé toutes les sécurités hardware, où tu avais vraiment un bouton à enclencher. Ce que tu avais sur le Terrac 6 et le Terrac 20, il n'y avait jamais eu aucun souci. Là, se sont dit, full software.
Mais déjà, mais quelle naïveté.
Déjà,
quelle naïveté.
Sur une machine dans un hôpital, faut être confiant, quoi. Enfin, c'est. Bon, après. Voilà. Deuxièmement, en fait, à l'époque, le développement de logiciels, Bah, c'est pas du tout comme de nos jours, c'est assez confidentiel. Il y a des petites communautés de programmeurs. Et il y a un peu une croyance qui fait que si un logiciel fonctionne pour la fonction qu'on lui a dit de réaliser, c'est OK.
Ça marchera
ne buggera
toujours.
Jamais,
ah, mais oui.
Ça buggera toujours. Et en fait, on s'en rend pas compte. Ouais. Nous, c'est con, on a joué à des jeux vidéo et on voit qu'il y a des bugs dans le jeu vidéo. Mm. Mais en fait, à l'époque, surtout quand t'es un gestionnaire de projet, t'es pas du tout développeur, bah, tu t'en rends pas compte et tu te dis ça, c'est des maths, ça ne peut pas dysfonctionner, quoi. Donc si on a fait le test que la fonction fait ce qu'il faut, bah, en fait, ça fonctionne.
Infaillible, ouais.
C'est hyper intéressant.
Et en fait, toutes les erreurs qui ont été faites partent un peu de cette croyance que bah, c'est bon, enfin.
Le code marche.
Par exemple,
non.
Le fait, à mon avis, le fait de faire une machine qui est entièrement contrôlée par le logiciel, pour eux, c'était vraiment une avancée.
Ouais.
En mode, mais juste, ça va régler plein de soucis, entre guillemets. Ouais. Quoi. Donc, il y a ça. Et surtout, il y a le comportement de AECL, donc la compagnie qui a mis au point cette machine, qui est vraiment particulier.
Le déni.
Alors, exemple de déni. Quand ils se sont aperçus du problème, quand même, après que le physicien ait remonté les problèmes, ils se sont dit, bon, OK, on va faire un patch. Le patch, j'envoie une lettre à tous les gens qui ont un Terrac 25 dans leur hôpital. On vous propose de bannir la flèche du haut qui permet d'éditer le mode. C'était le patch proposé.
C'est chaud.
Vraiment, ils ont un comportement particulier.
Ils auraient limite pu dire, vous avez qu'à pas vous tromper entre eux et ils.
Attendez 8 secondes, putain.
Attendez 8 secondes.
Honnêtement, je m'attendais quasiment à ça dans le rapport.
Compte 8 secondes dans ta tête et après, appuie sur le bouton, tu sais.
Et au pire, c'est ta faute, il meurt.
Non, mais c'est ça en vrai.
Exactement. Autre problème, alors tu l'as dit, c'était développé en assembleur, donc par des machines, on va peut-être pouvoir les voir, mais c'est PDP 11 et puis le petit ordinateur qui permettait de taper à côté. Donc c'est une grosse machine, hein. Le petit ordinateur qu'on a vu, c'est juste l'interface aussi. Ça, c'est l'ordinateur qui est à côté de.
Pas mal.
Du Terrac 25, quoi. Il y a un design électronique très complexe à la machine, et donc il fallait développer le software. Et là, ils se sont dit, OK, à qui on va faire appel pour développer le logiciel de notre nouvelle machine incroyable qui envoie des radiations pour guérir le cancer? On va confier ça à un unique programmeur amateur.
OK.
Ah ouais.
Ouais. Okay. Parce qu'en fait, c'était l'époque de l'électronique. Donc, je suppose qu'ils avaient des ingénieurs en électronique très, très haut placés, enfin, ouais. Très, très compétents. Mais en fait, ils ont juste demandé. Donc, c'est un mec tout seul qui a codé ça. Donc, pour un mec tout seul, là, ce qu'on a vu,
c'est pas mal.
C'est beau, hein. Et en fait, ce qui est dramatique dans cette histoire, c'est que lui, le programmeur amateur, donc je pense que c'était un hobby, quoi. C'était qu'à l'époque, c'était à moitié un métier pour lui. Je pense que c'est dans ce sens-là. Mais en fait, je suppose qu'il connaissait même pas le fonctionnement de la machine, ce que c'était de la radiothérapie. Peut-être qu'on lui avait un peu expliqué, mais en fait, je pense qu'il avait même pas conscience de créer un programme. Qui avait une importance vitale.
Parce que attends, quand tu y réfléchis là, imagine, tu es le dev qui a fait ce bug là.
Ouais.
En vrai. Je sais pas si tu dors très bien là.
Heureusement, son identité a jamais été révélée, même dans les procédures et tout machin. On sait pas qui c'est.
Et vrai, c'est pas moi je dirais c'est pas de sa c'est
non.
pas réellement
non,
sa faute
non,
en fait
non, et surtout
je pense qu'il y a des briques dans le process qui sont pétées là en fait
et justement qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour éviter ça même s'il est un unique programmeur etc
pas des tests par exemple
question qu'on leur a posée est-ce qu'ils ont fait des tests alors l'AECL a répondu ah oui on a fait 2700 heures de tests logiciels très bien on leur a demandé des données des rapports sur ces tests ils ont dit alors on a fait 2700 heures de tests logiciels, mais en fait, par les opérateurs de la machine, directement.
Oui, donc,
c'était des tests en production. AECL vient d'inventer les tests en production. En fait, c'était le nombre d'heures que la machine avait tourné jusqu'aux accidents.
Sur des vrais patients.
Évidemment.
Bah, voilà, juste mytho.
Voilà.
Pas mal.
Donc, aucun test. Pareil, il y a du code qui a été repris des machines Terrac 6 et Terrac 20, qui ont été développées par des Français, en plus. Aucun test de régression. Pour savoir si le code qui marchait sur les anciennes machines marche sur les nouveaux. Enfin, vraiment, aucun test. Et en fait, quand je dis aucun test, c'est qu'ils ont assemblé les machines dans les hôpitaux, parce que tu ne peux pas les amener directement, c'est des grosses machines. Ouais. Et en fait, ils n'avaient jamais fait de test auparavant. Ils ont mis les machines dans les hôpitaux, ils les montent, ils font quelques tests pour voir si ça fonctionne, et c'est tout. Après, il n'y a vraiment aucun test. Du coup, je finis sur cette histoire et sur ce qui s'est réellement passé. avec Ray Cox et les 5 ou 6 autres patients. En fait, on ne sait même pas trop exactement combien il y en a eu. Ray Cox aurait dû recevoir, je l'ai dit, 180 RAD. La machine, après la première... après le premier faisceau qui a envoyé le... Je sais pas, je sais jamais comment on dit ça. La machine a envoyé un premier faisceau et a dit avoir envoyé seulement 6 unités sur 202, donc c'est des unités de la machine qui correspond à 180 RAD. En réalité, il a reçu entre 16 500 et 25 000 RAD en seulement une seconde. Je vais vous expliquer à quoi ça équivaut. Ça équivaut à environ 200 Gray en unité européenne. Pour comparaison, c'est des centaines de fois plus que les liquidateurs de Tchernobyl.
J'allais dire ça.
À Fukushima, les 13 travailleurs les plus exposés ont absorbé des doses estimées entre 2 et 12 Gray.
Ouais.
Si on regarde, il y a une page Wikipédia qui recense la létalité du Gray.
Ouais.
Et donc, je crois que c'est à partir de 5. 5 Gray, il y a marqué, c'est la dose létale.
C'est létale, ah ouais.
Et après...
Oui, donc à 300, les chances de survie sont nulles.
Ouais, à 200 ou à 300, en fait, ils ne pouvaient juste pas s'en sortir. Et ce qui est atroce, c'est que c'est une mort lente, quoi.
Ça a duré 6 mois.
Tous tes circuits sont bouffés. Bref, tous tes tissus sont bouffés. Et donc, du coup, on est dans au moins 6 accidents, donc 5 morts avérées, à cause d'un problème de concurrence, quoi.
Ouais, non, mais c'est une histoire fascinante. Je pense qu'on peut le dire. C'est le pire bug de l'histoire, probablement.
Et la machine a été retirée en 1989. Heureusement. Mais 89,
elle a,
hein.
Elle a quand même tourné 7 ans, du coup.
Bah, du coup, c'était en quelle année, Ray Cox? Je ne sais plus. 86. 3 ans après Ray Cox.
C'est fascinant. En tout cas, si le sujet vous intéresse, je crois qu'il y a une vidéo que vous pouvez aller voir. On vous la mettra dans la description sur une chaîne qui nous a permis de faire découvrir, ce sujet.
On est tombé sur ce sujet avec cette vidéo.
Ce qui s'est passé ensuite, évidemment. Bon, on va pas se lamenter sur ce qui s'est produit, mais...
Ah ouais, bien sûr. Mais du coup...
Mais c'est devenu, comme tu disais, un cas d'école.
Et aujourd'hui, tout le monde, je sais pas, mais c'est devenu un cas d'étude pour la sécurité
ça lui arrive, en fait, donc,
des logiciels, principalement des systèmes critiques. En fait.
Au final, c'est souvent comme ça que les process sont mis en place et les standards. C'est qu'à un moment, il y a eu une erreur, il y a eu une grosse faille. Et on a été obligé de régler. mais en fait, c'est malheureux, mais on est obligé de passer par là.
Bah oui.
Parfois.
Oui.
Enfin, on n'est pas obligé, mais ça, c'est souvent c'est parce qu'on passe par là.
On est obligé de passer par 5 morts, peut-être pas.
Non, mais c'est parce que. Enfin voilà, c'est affreux, mais.
Et c'était dans les années 80-90, le monde a bien changé, heureusement.
C'est clair.
Et maintenant, je pense qu'il y a des trucs à hardware sur ces machines.
Parce que comme tu as fait de la bio, tu connais ces machines-là?
Je connais pas spécifiquement cette machine-là parce que j'ai pas bossé en médecine, mais j'ai bossé sur du nucléaire, du coup ça me parlait pas mal ce que tu disais, et les chiffres que t'as balancés, c'est juste... Même en bossant sur du...
Mais t'as pas pris de la radioactivité, toi?
À petite dose, en fait, quand tu bosses sur... parce que du coup, pendant un moment, je bossais sur la biodégradation des déchets nucléaires. Et donc, en fait, quand on avait des échantillons de déchets nucléaires, on était un peu exposés. Mais si tu veux, on a des espèces de cages en titane énorme avec des grosses épaisseurs et on est très peu exposés. Et puis, c'est très contrôlé aussi, la dose que tu te prends à l'année. Si tu veux, il y a régulièrement des tests qui sont faits. Et ces rayonnements-là, en fait, c'est juste... Enfin, j'imagine même pas quand ça peut être affreux.
La douleur que ça peut être.
La douleur que ça doit être.
Tu te souvenais quand t'étais exposé à combien?
C'est minime.
Les unités en radioactivité sont complexes. Ouais. Là, je vais parler que de l'unité qui l'absorption de tissu, mais il y a plusieurs qui, d'ailleurs, pour faire les comment on appelle ça,
les conversions.
Les conversions. Les conversions, c'est complexe. Il y a le millisievers, il y a le gray, etc.
Moi, j'ai découvert quand tu prenais l'avion, en fait. T'étais pas mal exposé niveau radioactivité, je ne savais pas.
Ouais.
Voilà.
Ouais, complètement. Et après, en fait, c'est une question aussi de durée. Parfois, tu peux te prendre tu peux aller à Fukushima assez proche. En fait, si tu restes 24 heures,
c'est pas un problème.
C'est pas un problème du tout.
Le chat dit que t'as été principalement exposé aux UV cet été.
Et ça, c'est vrai.
C'est moins grave.